Notre invité aujourd'hui, Henri Sagnier. Henri Sagnier, on ne le présente plus, mais on va en parler de sa carrière dans un instant. Henri Sagnier a édité un livre qui s'appelle « Les seigneurs de la route, portrait de 40 géants du cyclisme » aux éditions Hoboken. C'est un sorte d'album avec beaucoup de portraits de grands coureurs. Bonjour Henri Sagnier.
Merci de m'accueillir.
Merci d'être avec nous. Vous, déjà au départ, vous êtes un fan de cyclisme.
Ah bah je suis un fan de vélo. Vous savez, moi, j'ai eu mon premier cadeau dont je me souviens, bon, il y a des photos pour en attester, c'était un petit vélo rouge. Je m'en souviendrai tout le temps. Je devais avoir un an ou un an et demi.
Ah, déjà.
Et puis après, à l'école primaire, notre instituteur ici, dans mon petit village, nous a demandé ce qu'on voulait faire. Moi, j'ai dit, je veux être journaliste ou coureur cycliste, mais si je suis journaliste, c'est pour commenter le Tour de France.
D'accord.
Alors vous voyez, j'étais vraiment baigné dans le vélo. Hein.
D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que il me semble, il y a une anecdote qui court, que lorsque vous présentiez le 13h sur France 2, vous avez taponné, si vous me permettez l'expression, le rédacteur en chef à l'époque, pour faire l'édition des 13h dans une ville d'arrivée du Tour de France.
C'était pas
prévu et vous avez bataillé bec et ongles et vous êtes arrivé. Comme quoi vous
ça,
avez...
Je l'ai fait à plusieurs reprises. Je l'ai fait pour le 13h, je l'ai fait pour le 20h aussi.
D'accord.
Je me souviens d'un 20h à l'Alpe d'Huez avec Raymond Poulidor et Jacques Delors. Alors vous voyez, c'était marrant. Et c'était le choc des styles et des passions. Mais oui, c'est tout au fond de mon cœur, il y avait toujours du vélo. Et dans tous les journaux télévisés que j'ai pu faire, il y avait du vélo, la plupart du temps.
Alors on va revenir sur votre ouvrage. Votre album, puisque c'est plus un album qu'un ouvrage, et vous faites le portrait de différents grands champions. Alors moi, ce qui m'a étonné, c'est quand j'ai regardé un tout petit peu ce livre, il y a certains coureurs dont je n'aurais jamais mis le nom dans un album, notamment, pour n'en citer qu'un, Lance Armstrong. Pourquoi vous avez quand même voulu en parler, par exemple?
Ah ben moi, je l'ai mis parce que j'estime que Lance Armstrong, bon, il nous a menti, hein, donc là, je lui pardonne pas. Hein. Moi, j'étais un de ses supporters, je l'aimais beaucoup, parce que je trouve que c'est un beau coureur, mais il a fait des choses extraordinaires, et c'est un mec qui revient de l'enfer, quand même. Hein. Il a été trépané, il avait le cancer, et moi, je le rencontrais souvent, indépendamment de ses victoires, je lui donnais des petits mots écrits par des gamins qui étaient touchés par le cancer, et il allait en voir certains à l'hôpital, sans caméra le soir pour leur apporter des cadeaux. Alors ça, je ne l'oublie pas, vous voyez.
Ah, c'est par rapport au côté aussi un peu personnel des coureurs.
Oui, mais ça, c'était son côté humain que personne ne connaît, puis il ne voulait pas en parler. Il donnait l'image d'un monsieur arrogant et très fort. Mais c'était un très, très bon coureur. Et moi, je maintiens qu'il n'avait pas besoin de se doper pour gagner le Tour de France.
D'accord.
Il était plus fort. Mais j'ai l'impression qu'il prenait des trucs. D'abord, il avait un protocole, il avait le droit d'en prendre parce qu'il avait été très malade. Et puis, il en prenait parce qu'il ne voulait pas être battu par des gens moins forts que lui, disait-il.
D'accord.
Alors, je ne lui pardonne pas pour autant, hein, attention. Hein.
Alors, dans cet ouvrage, il est souvent fait de la même manière, c'est-à-dire on parle d'un coureur, vous donnez votre avis, si c'est ça, et puis après on parle de son parcours, etc. Il y a des milliers de bons coureurs, le choix a été difficile ou c'était assez simple à trouver comme nombre de coureurs?
Ah non, le choix a été difficile, hein, parce qu'on m'en a demandé 40, j'aurais pu en faire 70. Hein. Il y a des vainqueurs du Tour de France qui figurent pas dedans, et puis il y a des coureurs qui sont dedans et qui ont jamais gagné le Tour de France. Il y a par exemple un gars comme Jimmy Casper. Alors il y en a qui doivent se demander pourquoi j'ai mis Jimmy Casper. Eh ben, il m'a offert le plus beau cadeau de ma vie, c'est-à-dire que Jimmy, c'est un Picard comme moi.
Oui.
Hein, on habite dans le nord de la France, au nord de Paris. Et puis, il a gagné l'étape du Tour de France à Strasbourg. Et c'est la première fois que je commentais le Tour de France. J'avais peur de me planter à l'arrivée dans le commentaire du sprint, et c'est lui qui a levé les bras. Alors, on pensait bien que ça, c'est un cadeau extraordinaire. Moi, j'ai levé les bras en même temps que lui. Voilà, donc je raconte un peu son histoire.
Ouais, alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a le choix des personnages, mais aussi le choix de la génération. Par exemple, moi, j'ai découvert certains coureurs dont je ne connaissais pas ni l'existence, ni d'ailleurs leur parcours. Il y a des gens qu'on connaît bien, Anquetil, Armstrong, on l'a dit, Bartoli. Par exemple, un coureur comme... Fausto Coppi, on connaît bien, mais il y a certains coureurs que je ne connais pas. Charles Gaulle, par exemple.
Ah ben Charlie Gaulle, c'est l'ange de la montagne, c'était le plus grand grimpeur de tout le temps. Un Luxembourgeois qui a gagné le Tour de France, le premier Luxembourgeois à gagner le Tour de France, c'était un mec étonnant. Voilà, puis à la fin de sa vie, bah, il disait « Oubliez-moi, je ne suis qu'un vieux champion qui a gagné un jour le Tour de France, mais je veux plus qu'on m'en parle ». Mais c'était un mec qui était extraordinaire, et alors il était bon dans l'adversité, et quand le temps était mauvais, quand il faisait un temps de chien sur la route du Tour, il était devant, et il prenait plusieurs minutes d'avance sur tous les autres candidats à la victoire. Ça, c'était un super coureur. Alors c'est vrai que je parle de coureurs comme lui, comme Bahamontes, un Espagnol, qui était aussi le premier à gagner le Tour de France. Qui était l'aigle de Tolède, lui, c'était pareil, c'était un grimpeur. Et je crois que c'est pas mal de rendre hommage à tous ces gens qui ont disparu maintenant, qui ont disparu dans le langage, parce qu'ils sont pas morts, la plupart. Hein. Mmh. Mais c'est une autre génération. Tous ceux de la génération de maintenant, j'en parle pas, parce que je ferai peut-être un autre bouquin dans quelques temps, quoi.
D'accord. Dans tous les portraits que vous avez faits, il y a une petite illustration sympathique, des petits dessins. Il y a une photo, il y a des photos, évidemment, et des petits dessins en bas de certains coureur avec c'est quoi l'idée,
c'était de démystifier un petit peu et de faire autre chose que les photos qu'on voit dans tous les bouquins. Hein. Quand vous faites des bouquins sur le Tour de France, vous avez toujours la même photo d'Anquetil et Poulidor au sommet du Puy-de-Dôme, vous avez toujours la même photo au sommet de l'Alpe d'Huez avec Hinault et Greg LeMond main dans la main. Voilà, vous avez toujours ça. Nous, on a décidé de faire autre chose avec un graphiste que je ne connais pas d'ailleurs, mais qui s'est inspiré de mes textes et qui s'est dit je vais tirer parti de tout ça pour faire des petits assemblages marrants. Il y a Anquetil qui est en train de cueillir des fraises parce qu'il a été cueilleur de fraises dans sa jeunesse. Il y a Hinault qui est sur un char d'assaut parce qu'il a commencé dans les chars d'assaut quand il était militaire. Voilà, il y a des tas de choses qui sortent de l'ordinaire comme ça et c'est bien apprécié par les lecteurs, semble-t-il.
Alors, il y a eu un coureur dans lequel il y a beaucoup d'émotions. Plus que les autres, c'est Laurent Fignon
qui a été. Laurent, j'ai commenté avec lui le Tour. Hein. Ouais. Donc c'est vrai que j'éprouve encore plus de sentiments de tristesse quand j'en parle. C'était un monsieur extraordinaire qui n'était pas facile à bosser, hein, parce qu'il avait gagné le Tour de France. Et il estimait que quand on n'a pas gagné le Tour de France, on ne peut pas faire des réflexions très importantes sur le Tour et sur la course. Moi, il me le disait. Il dit là, qu'est-ce que tu me racontes là? Tu peux pas dire ça. T'as pas vécu telle et telle chose. Il avait raison. Mais c'est un monsieur délicieux. Moi, j'ai commenté pendant 2 ans avec lui le Tour de France. C'est devenu un complice. Il venait à la maison. Il est venu faire une cyclo avec nous, avec les autres coureurs, en faisant preuve d'humilité et tout. Et c'était un beau cadeau pour nous. C'est un grand monsieur, c'est un grand monsieur du vélo.
Quand vous écrivez des textes, ils viennent tout seuls ou vous avez, vous, besoin encore de retrouver des livres sur les différents coureurs? Le petit test que vous faites, c'est quoi? C'est un mini-édito? C'est le fruit d'un travail?
Ah ben c'est le fruit d'un gros boulot. Moi j'ai mis près d'un an pour écrire ce bouquin parce que bon, on les connaît tous les champions. Enfin moi je les connais parce que j'ai bossé dans ce milieu-là, dans le sport pendant une vingtaine d'années, rien que dans le sport. Mais j'ai relu plein de choses les concernant. J'ai fouillé dans les anecdotes que j'avais avec ces gens-là. J'avais plein d'anecdotes en commun. J'essaie d'en sortir quelques-unes, pas toutes. Voilà, c'est un gros boulot de réflexion. C'est pas simplement un album dans lequel je dis voilà ce qu'ils ont gagné, voilà ce qu'ils ont perdu. C'est un livre dans lequel il y a de l'émotion aussi. Moi, c'est ce que je voulais, essayer de montrer que ces gens-là sont vraiment des seigneurs de la route, sont des gens qui ont une âme, sont des gens qui ont un destin, et sont des gens qui sont très, très, très humains et passionnés par leur discipline.
Alors, vous parlez d'humanité, et il y a un des coureurs dont vous parlez dans le livre, qui est un Italien, qui s'appelle Gino Bartoli.
Bartali,
autant pour moi, qui lui a été quelqu'un d'extraordinaire pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a été, on va dire, sauveur de juifs. D'ailleurs, sa famille est Taillade Vachem, en tout cas un monument de Vachem. Vous pouvez nous dire deux mots sur ce coureur-là?
Ben, ce coureur, il était coureur alors que l'Italie était fasciste. Hein. Mmh. Et lui, il n'était pas fasciste du tout. Et il s'était fait incorporer dans l'armée. Il faisait du vélo. Il allait porter des messages dans des couvents, chez des gens où des juifs étaient planqués, quoi. Et il a fait ça pendant pratiquement toute la guerre. C'est pour ça qu'à la fin de la guerre, il a été déclaré juste auprès de la nation et auprès des nations. Mais il était décédé, malheureusement. Et il a pas eu cet honneur de son vivant. C'était un monsieur extrêmement pieux. Hein. On l'appelait Gino le Pieux. Uh-huh. Il avait fait construire une chapelle dans son jardin.
Ah, carrément.
Ah oui, carrément, là, il mégotait pas.
Oui, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le Giro est parti il y a 2 ans d'Israël pour la mémoire de ce grand coureur.
Tout à fait.
Les seigneurs de la route, portrait de 40 géants du cyclisme par Henri Sagnier. La mise en décision s'appelle Obeck, comme on dit.
Obeck. Et ça dépend de Gallimard. C'est une branche, une ramification de chez Gallimard.
Dans tous les coureurs dont vous citez, peut-être les autres, il y a quelqu'un dont vous voudriez parler, dont vous êtes fan, dont c'est pour vous le meilleur. Il y a un meilleur.
Ah oui, moi c'est Jacques Anquetil. Pour moi, Jacques Anquetil, c'était le meilleur. C'est le plus beau, il a du talent, il est très beau sur son vélo. Et depuis que je suis journaliste, j'ai une photo qui me suit dans tous les bureaux où j'ai travaillé. C'est une photo de Jacques Anquetil en noir et blanc. Quand il gagne le Grand Prix des Nations, c'est une épreuve contre la montre, il avait 19 ans. Et j'ai toujours cette photo parce que pour moi, elle est exemplaire de la tenue qu'on doit avoir en vélo. Elle est exemplaire de la beauté d'un coureur cycliste.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Alors, vous l'avez dit, commandé le Tour de France. Est-ce qu'on doit être obligatoirement fan de cyclisme pour commenter le Tour de France ?
Un peu quand même, parce que si on n'aime pas le Tour de France, il ne faut pas commenter, quoi. Non, mais moi, je suis fan, mais j'en fais du vélo. Ouais. Moi, je fais encore des épreuves cyclosportives à vélo. Je termine loin dans le peloton et même derrière. Mais je les fais encore sur 150 ou près de 200 kilomètres. Les plus belles vacances que j'ai faites, c'est à vélo. Ouais. Moi, je pars de chez moi en Baie-de-Somme et je vais jusque dans les Alpes à vélo, en 4 ou 5 étapes. Et puis, j'ai fait des télétons, j'ai fait Bordeaux-Paris à vélo, Londres-Paris, Berlin-Paris, Albertville-Paris.
Vous avez fait, je crois,
ma passion. Moi, je vis sur un vélo.
Dans le Tour de France, vous avez fait, je crois, avec plusieurs copains journalistes, vous êtes parti de Nice et vous avez fait un tour en vélo, je crois, aussi.
Sur le Tour de France, ouais. Oui, tous les ans, on fait ça. sur tous les ans, on fait une épreuve, on fait une étape pour mécénat chirurgie cardiaque. Ah. C'est-à-dire qu'on fait ça pour récolter de l'argent auprès des entreprises. Alors les entreprises nous voient pédaler et donnent un peu d'argent pour l'association. Et grâce à ça, on fait opérer des enfants du cœur. Généralement, ce sont des enfants qui viennent d'Afrique, qui ont des insuffisances cardiaques. Et on paie leur opération avec ça, grâce à notre effort. Et bah, pour opérer un gamin, il faut 12 000 euros. Cette année, on pourra en opérer 21. D'accord. C'est quand même pas mal. On est assez fiers d'avoir fait ça, d'appuyer sur les pédales pour les enfants.
Est-ce que c'est difficile de succéder à Robert Chapat en commentaire d'un Tour de France ?
Ah bah, c'est difficile parce que lui, c'était un coureur. Moi, je suis pas un coureur. Moi, je parle avec mon cœur, avec ma passion. Lui, parlait avec son expérience. Hein, lui, il avait son expérience, plus le cœur, plus la passion.
Et ça, ouais, et son phrasé aussi.
C'est compliqué, mais vous savez, c'est chacun son truc. Quand il y a de la politique, bah, c'est toujours difficile de succéder à Charles de Gaulle ou à d'autres. Hein. Mais voilà, on n'est jamais pareil. Chacun fait son boulot avec ses intonations, avec sa passion, avec ses convictions. Mais on succède toujours à quelqu'un. Toujours.
Alors, il y a aussi, pour la politique à l'instant même, c'est sur votre plateau que François Mitterrand a dit qu'il se représentait.
Oui, tout
c'est
à fait.
Dans l'offre 20h. Justement, est-ce que le pouvoir politique est plutôt derrière le vélo, le fait que Macron est sur le Tour de France ou
ben
d'autres
Macron
présidents ?
Macron va souvent sur le Tour de France, mais je ne sais pas s'il est grand amateur de vélo. Tiens, je n'ai pas envoyé mon bouquin, il faudrait que je le fasse, comme ça je saurais. Peut-être qu'il me dirait, je n'ai pas fait envoyer. Je vais voir avec mon éditeur, avec Ebeke. Mais la plupart des présidents, des hommes politiques, adorent le Tour de France. Hein. Ouais. Vous le disiez, Emmanuel Macron est venu deux fois sur le Tour, deux ou trois fois sur le Tour de France, c'est qu'il aime ça. Je sais qu'il aime le football. François Hollande aimait beaucoup le vélo. Moi, je l'ai eu dans ma voiture plusieurs fois sur le Tour de France. Il n'était pas encore président quand je l'avais eu, mais il est revenu après. Il y a plein d'hommes politiques qui aiment le Tour de France. Ça leur rappelle tous des souvenirs de jeunesse. Hein, et tous disent, ah bah ça, la France de juillet, la France du Tour, c'est extraordinaire. Mitterrand aimait bien le Tour de France aussi.
Alors,
le général aussi, hein, le général de Gaulle avait fait arrêter le peloton, il ne l'avait pas demandé, mais le peloton s'était arrêté à Colombey-les-Deux-Églises, il était là en simple spectateur, et Gastone Nencini, qui avait le maillot jaune, lui a serré la main.
Est-ce que dans toutes les émotions que vous avez vécues, il y en a une qui est plus forte que l'autre ? Dans votre carrière de commentateur
Dans la carrière de commentateur du Tour de France ouais. Ah ben il y a des tas d'images qui sont plus fortes que d'autres. Oui, moi il y a des images que j'ai aimées plus que d'autres. Moi, ce que j'ai aimé, c'est Virenque. Alors Virenque, vous allez me dire, il a fauté, Virenque lui aussi. Hein. Mais Virenque, bon, il a été condamné. Il a eu une période pendant laquelle il n'avait plus le droit de courir. Et il est revenu sur le Tour avec plein de bonnes intentions, avec toujours les mêmes supporters, avec la même hargne sur le vélo et la même volonté de gagner. Et un jour, il a gagné. Je crois que c'est en Auvergne et là ce jour-là il est allé au fond de lui-même, il pouvait plus, il est tombé et il dit je gagne pour ma grand-mère et il dit voilà là je suis redevenu un coureur propre et je gagne et ce jour-là je me suis dit voilà c'est un très grand champion et voilà on a oublié tout ce qu'il avait fait avant et avec son équipe parce qu'il n'était pas tout seul et moi c'est une image qui m'a ému aux larmes vraiment.
D'accord. Alors, ça, c'est vrai que Virenque, il a réussi à faire venir plein de gens au cyclisme parce que il avait aussi cette façon de rouler et de parler. Je voudrais qu'on revienne un instant, Henri Sagné, sur votre carrière journalistique. On l'a dit, vous avez présenté le 20h, le 13h. Peu de gens savent que vous avez été le créateur du 19-20.
Ouais.
Sur France 3, en présentant cette tranche de formation avec Gilles Oppenheimer. Mm-hmm. C'est quoi l'idée ? Comment on arrive à monter une institution qui est le 19-20 ?
Moi, je l'ai monté, mais parce qu'on me l'a demandé. Hein. J'étais rédacteur en chef à FR 3 Caen à cette époque-là. C'était pas encore France 3, c'était FR 3 Caen. Et puis ça marchait bien parce que j'avais une bonne équipe avec moi, j'avais la trentaine, voilà. Et puis j'étais kamikaze, je faisais des tas de trucs, des opérations spéciales. J'ai fait des opérations spéciales pour le 40e anniversaire du débarquement sur l'antenne nationale. J'ai fait des tas de trucs comme ça. Ouais. Et puis la patronne, qui s'appelait Nicole Langlois-Glandier, m'a appelé. Et elle m'a dit, voilà, je voudrais que vous créiez le 19-20, un 19-20, et pour fédérer le travail des régions et tout. Et ben j'y suis allé, avec une équipe de commandos qui venait de Caen, d'ailleurs, hein, parce que j'ai pris la moitié des journalistes de Caen.
Ouais, c'est sympa, ça voilà la raison. Ouais.
Et on est venu créer ça. Alors au départ, ça marchait pas très bien. Et puis au bout de 3 à 4 mois, ben, ça a fait un tabac. Et je suis fier, parce que maintenant, c'est devenu un très 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 beau bébé.
Et vous avez également créé tout le sport.
Et j'ai créé... Non, alors là, il avait été créé un peu avant que j'y arrive. Ouais. C'était Jean Réveillon qui l'avait créé. Ouais. Mais moi, je l'ai repris 2 ans après. Et je l'ai managé pendant 17 ans en tant que présentateur et rédacteur en chef. Et c'est un vrai plaisir. Tout le sport, c'est un vrai plaisir.
Il y a en ce moment... je voulais vous entendre sur ça parce que c'est l'actualité. Il y a un grand imbroglio entre la Ligue de football professionnel et Mediapro, qui est le diffuseur des matchs de Ligue 1. Comment vous analysez tout ce micmac, tout cet argent qui rentre dans le sport, y compris dans le cyclisme?
Ben vous savez, vous n'avez pas de sport de haut niveau sans argent. Une équipe cycliste, vous pouvez la monter avec 5 ou 10 millions. Hein, d'euros. 5 à 10 millions, c'est ce qu'on donne à certains joueurs de football.
Même plus.
Je sais pas si vous voyez. Bon, ben on est dans un monde de pognon, on est dans un monde où il faut de l'argent pour faire tourner la boutique. L'histoire du foot, ben je sais pas, ceux qui ont acheté les droits du foot, ils devaient pas bien connaître le foot, parce que là, ça se casse la gueule, parce qu'il y a personne dans les stades. Et oui, par la force des choses.
Et là, différent.
Ces gens-là, ils tiennent pas leurs promesses, ils veulent pas payer. Alors bon, ça c'est moche aussi, parce que quand on a topé, on a tapé dans la main et qu'on a signé un contrat, qui plus est, ben il faut le respecter. Mmh. Mais c'est vrai que c'est le règne aussi de l'argent. Il y a l'argent.
Mais à l'époque, vous aussi, c'était aussi de l'argent, mais c'était pas des sommes aussi énormes, si?
Non, c'était pas aussi énorme. Mais oui, mais vous savez, le spectacle du foot. Moi, j'adore le foot. Hein, personnellement, je parle beaucoup de vélo, mais j'adore le foot. Et le spectacle du football, c'est un très 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 beau spectacle qui fédère toute la France et tout. Vous êtes bien placé pour le savoir avec Strasbourg.
Ouais, bon.
Moi, j'étais un supporter. Je suis toujours un supporter d'Amiens, mais nous, ils nous ont floués. Ils nous ont fait descendre sans terminer le championnat de France. Ouais. Et ça, je leur en veux, mais à mort. Parce que c'est comme si on arrêtait le Tour de France à la 10e étape et on disait c'est celui qui est en tête qui a gagné.
Ah,
c'est une plaisanterie extraordinaire. Là, ils ont arrêté, il restait 10 matchs.
Et Amiens pouvait rester.
Les plus grandes équipes, et puis il restait des clubs plus intéressants. Ouais. Et bien là, ils ont tout arrêté, ils ont dit Amiens descend et Toulouse descend. C'est nul. Bon, ça, c'est une parenthèse, hein. Pardon.
Ouais. Mais, ça, c'est le supporter qui parle.
Il faut de l'argent pour le foot, il faut de l'argent si vous voulez les meilleurs, ben il faut du fric.
Bah, moi je
c'est une triste réalité, hein, mais c'est comme
mais
ça.
C'est-à-dire que, par exemple, on va parler de France Télévisions aussi, à partir de l'année prochaine, on ne pourra plus voir les matchs de la nuit à Roland-Garros parce que c'est payant, ouais. Le foot c'est payant, c'est quand même frustrant de ne pas pouvoir voir à la télévision pour tout le monde un spectacle aussi extraordinaire que le tennis, le Tour de France, là il y a la Volta.
Ah ben le Tour de France c'est pas payant. Hein,
pour la Volta, France,
payant.
La Volta.
Le tennis c'est pas payant encore. Hein.
Ah ben l'année prochaine c'est payant pour le soir.
Pour le soir, ouais. Peut-être tard le soir, parce que maintenant ils jouent à des
heures
indues. Mais il faut faire comme moi. Moi je ne me suis jamais abonné à une chaîne payante, quelle qu'elle soit, pour regarder le foot ou autre chose.
Alors qu'en fait
jamais, moi jamais, je suis resté fidèle aux chaînes hertziennes.
Mais vous regardez jamais alors les matchs sur Canal ou sur Bein ou sur...
Non, je n'ai ni Canal ni Bein. Moi j'écoute à la radio, je regarde les résumés après, mais par principe j'ai jamais été Canal ni Bein. Alors je vais chez des copains de temps en temps qui ont Canal ou Bein, hein, pour regarder certains matchs.
C'est moins cher.
Mais oui, c'est beaucoup moins cher. Ou je fais du streaming, mais ça il faut pas le dire.
Oui, alors on ne dit pas.
Hein,
on dit pas.
On le dit pas. Mais voilà, moi je me contente des matchs de l'équipe de France et de certains matchs de Coupe d'Europe. Et pourtant j'adore le foot, mais non, moi je pas de trucs payants. Ça, j'y suis jamais allé. J'ai jamais eu d'abonnement à Canal+, par exemple, alors que j'ai plein d'amis à Canal+. Hein.
D'accord. D'ailleurs, vous parliez de radio. Vous avez jamais fait de radio ?
Ben, j'en ai fait un peu au départ, dans une petite radio locale qui s'appelait Radio Saint-Quentin.
Et
j'ai jamais fait de radio. J'aurais bien aimé, parce que tout le monde m'a dit, t'as une bonne voix de radio.
Et
mais on n'est jamais venu me chercher.
Ah, d'accord. Et pourtant...
Si, une fois, RMC m'avait demandé, mais c'était pour faire des tranches du matin et tout. Et puis je voulais garder la radio plus la télé. Et on m'a dit, c'est pas possible. Donc je suis resté à la télé.
Alors ça fait quelques années que vous avez quitté les studios de télévision. Vous faites quoi durant vos temps libres, mis à part de répondre aux questions d'un journaliste sur une radio juive?
Ben, je fais quoi, je continue de me passionner, c'est-à-dire que moi maintenant je ne vis plus à Paris mais je vis à la campagne. Et ça c'est pas désagréable. En plus je suis élu local, je suis maire de la petite commune où j'habite. Je suis maire depuis 40 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est mon petit jardin secret, ça j'en parlais pas trop.
Mais vous êtes affilié à un parti ?
Non, pas du tout. Moi, je m'occupe de tout. Moi, j'écoute tout le monde. J'ai des convictions, mais personne ne les connaît. Ah. Non, je suis pas du tout affilié à un parti. Vous savez, dans des petites communes comme nous, moi, je sais même pas quelle est la couleur politique de mes colistiers. Hein.
Ah bon ?
Non, moi, ça m'intéresse pas. L'essentiel, c'est d'être au service de la collectivité.
Vous êtes assez...
Je fais mon jardin. J'ai un petit jardin, là, je m'amuse. Et puis, je voyage beaucoup, je vais beaucoup, moi j'aime beaucoup les dom-tom, les Caraïbes, donc je vais en Guadeloupe très souvent, je vais à la montagne,
je me balade
en Alsace, parce que j'adore l'Alsace, c'est une des plus belles, si ce n'est la plus belle région de France.
Ah, ça vous dites ça, parce que c'est une grade de Strasbourg.
Alors je suis très très souvent en Alsace, j'aime les paysages, j'aime les gens, j'aime la gastronomie, j'aime le vin d'Alsace.
Ah ça oui, ça vous dit
raison. Et voilà, je suis très pris, puis maintenant je suis grand-père, j'ai charge d'âme. J'ai un petit garçon et une petite fille, donc ça occupe le temps.
Vous êtes aussi, je crois, vous avez présidé une association sur le festival de l'oiseau et de la nature, c'est ça ?
Ah oui, tout à fait. Depuis une trentaine d'années, il m'avait choisi.
C'est quoi ça ?
Mais là, je suis que la face immergée un peu de l'iceberg. Hein. J'ai une équipe qui travaille là-dessus. Mais on fait ça pour défendre l'environnement, pour défendre les oiseaux, pour défendre la nature. Et on défend notamment la baie de Somme, qui vient d'être répertoriée comme l'une des plus belles baies du monde.
Voilà.
Et là, on est vachement fiers, quoi. On est très, très fiers parce qu'on a préservé cette région qui est pas très loin de Paris et qui reçoit maintenant de plus en plus de touristes. Mais elle est complètement préservée. Hein. Il n'y a pas de béton, il n'y a rien du tout. Hein.
Henri Sagnier, les seigneurs de la route, portrait de 40 géants de cyclisme, édition Obeke. C'est un très bon ouvrage que vous pouvez même offrir en cadeau pour peut-être vos enfants, s'ils sont sages pendant les vacances de la Toussaint. Henri Sagnier, je vous remercie et je vous souhaite de nous retrouver peut-être bientôt à Strasbourg. Qui sait ?
Merci, c'était un plaisir de répondre à vos questions. Merci à vous.
Merci beaucoup à vous, Henri Sagnier. Au revoir.
Au revoir.